pas faux. L'émission qui vulgarise sans être vulgaire.
Ouais, c'est pas faux.
Bonjour à tous et à toutes, c'est Cindy, bienvenue dans ce nouvel épisode de C'est pas faux, l'émission de culture scientifique de Radio Phoenix. Je suis ravie de vous accompagner aujourd'hui comme chaque mardi à midi pour parler science avec différents invités. Nous sommes le mardi 4 mars et aujourd'hui nous allons parler d'enquête de science. Lundi prochain marquera l'ouverture de la 9e édition de ce festival de médiation scientifique. Il se tiendra du 10 au 22 mars et pour nous en parler nous recevrons Julien Legal, le responsable du festival. Nous accueillerons également Louis Mahé, Florine Lemarchand, Fatouma Tadjité et Ocelin Zoho, étudiants et doctorants qui organisent des ateliers dans le cadre de l'événement. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, faisons d'abord un tour des infosciences de la semaine. On commence avec des nouvelles de l'astéroïde YR4. Le risque d'impact avec la Terre est désormais proche de zéro. Pour rappel, l'astéroïde avait été identifié comme potentiellement dangereux en décembre dernier. Il pourrait percuter la Terre en 2032. D'une taille estimée entre 40 et 90 mètres, ce rocher serait à même de dévaster une ville entière. L'astéroïde a établi un record en termes de risque d'impact en février dernier, 3,1% selon les calculs de la NASA, mais les plus récentes observations de sa trajectoire excluent désormais presque tout scénario de collision. Un communiqué publié la semaine dernière par l'ESA, l'Agence spatiale européenne, annonce la nouvelle probabilité d'impact à 0,001%, soit une chance sur 100 000. La trajectoire de l'astéroïde sera tout de même suivie ces prochains mois, comme celle de tous les autres corps célestes remarquables grâce au télescope spatial James Webb. Des scientifiques alertent sur la fonte des calottes glaciaires en Antarctique. Dans un article publié hier dans Environmental Research Letters, à l'aide de simulations informatiques, les chercheurs ont constaté que la fonte des glaces risquait de ralentir le courant circumpolaire antarctique. Ce courant océanique est le plus fort de la planète, avec un débit équivalent à 100 fois celui de tous les fleuves sur Terre. Un débit qui pourrait bien diminuer de 20% d'ici 2050 si les émissions de combustibles fossiles venaient à augmenter. Mais en quoi est-ce important? Eh bien, ce courant circumpolaire connecte les océans Atlantique, Pacifique et Indien, ce qui permet de réguler les échanges de chaleur, de carbone et d'humidité. Les scientifiques craignent que son ralentissement réduise la capacité de l'océan à agir en tant que puits de carbone et mène à un réchauffement climatique accéléré. On reste dans le milieu marin. L'Ifremer a publié mercredi dernier son bilan de 2024 sur l'état des populations de poissons pêchés en France. Le constat principal, 58% des poissons débarqués en 2023 proviennent de populations exploitées durablement, contre 52% en 2022. Une légère hausse qui reste toutefois bien en dessous de l'objectif des 100% fixé par l'Union européenne pour l'année 2020. La situation reste préoccupante puisque 19% des poissons pêchés sont issus de populations surexploitées et 2% de populations effondrées. De plus, l'Ifremer observe une baisse de plus en plus marquée du renouvellement des générations, c'est-à-dire qu'il y a moins de poissons jeunes à même de faire perdurer l'espèce. En cause, la dégradation des habitats marins, les changements de courant, la pollution et le réchauffement de l'océan, tout un tas de facteurs qui empêchent les larves de poissons de survivre. Depuis samedi dernier, les antalgiques à base d'opioïdes comme le tramadol et la codéine doivent être prescrits sous ordonnance sécurisée. Les durées maximales de prescription de ces traitements ont également été réduites à 12 semaines. Des mesures qui ont été prises afin de limiter les cas de mésusage, de dépendance et d'abus, en luttant contre la hausse des falsifications des documents. L'ANSM, l'Agence nationale de sécurité du médicament, relevait en effet qu'en 2022, presque la moitié des fausses ordonnances concernaient ces antidouleurs à base d'opioïdes. À noter que les ordonnances déjà prescrites pour un traitement au cours seront toujours acceptées jusqu'au 31 mars. Et pour terminer ce flash, coup d'œil dans le rétroviseur, c'était il y a un an jour pour jour, le 4 mars 2024, le Congrès approuvait l'inscription de l'avortement comme une liberté garantie dans la Constitution. Pour rappel, cet ajout a pour objectif de protéger le droit à recourir à l'IVG en l'empêchant d'être remis en cause par une simple loi. Avec 1680 voix contre 72, les parlementaires ont largement rempli la condition des 3/5 de suffrage exprimé nécessaire pour réviser la Constitution. L'officialisation de cette révision se fera 4 jours plus tard, lors de la Journée internationale des droits des femmes. La France est donc devenue le premier pays au monde à reconnaître la liberté de recourir à l'IVG dans sa constitution, un aboutissement historique, fruit de décennies de combats pour protéger ce droit qui semble de plus en plus menacé.
Vous écoutez C'est pas faux sur Radio Phoenix.
Lundi prochain marquera le début de la 9e édition du festival Enquête de Science, événement dédié à la médiation scientifique. Pendant 12 jours, les étudiants et étudiantes de différentes filières vous proposeront des animations autour de sujets scientifiques sur les différents campus de l'Université de Caen.
Pour nous en parler, nous sommes aujourd'hui en compagnie de Julien Legal, responsable du festival. Bonjour.
Bonjour.
Nous sommes également en compagnie de Loris Maé, Florine Lemarchand, Fatoumata Djité et Ocelin Zoho, qui sont étudiants et doctorants et qui prennent part à l'organisation de diverses animations au cours de cet événement. Alors, dans un premier temps, est-ce que vous pouvez nous présenter en quelques mots ce que c'est que le festival Enquête de Science ?
Oui, c'est un festival, donc, comme vous l'avez bien dit, de médiation scientifique qui, depuis quelques éditions maintenant, est, on va dire, animé à 99% par des étudiants, comme on a aujourd'hui avec nous, qui sont de différents profils d'étudiants, différentes années, différents UFR ou départements. L'idée, ça peut être aussi intégré dans un cours, gestion de projet, projet tutoré, ou alors des associations étudiantes aussi qui souhaitent valoriser leur contenu.
Et donc, question purement pratique, comment on accède à ce festival ? Est-ce que c'est ouvert à tous ? Comment on s'y rend ?
Alors c'est évidemment ouvert à tous, je crois qu'il n'y a qu'un événement payant, c'est la soirée cinéma, sinon tout le reste est gratuit. Même si le festival est plutôt dédié et proposé pour les étudiants, n'importe qui peut tout à fait venir participer à un des ateliers.
Et alors c'est quoi les objectifs de cet événement ? Pourquoi il a été créé ?
Alors au départ, je ne vais peut-être pas faire tout l'historique parce qu'on n'aura pas assez de temps, mais au départ c'était créer un autre événement. Il y a la fête de la science que tout le monde connaît au niveau national au mois d'octobre, qui est un événement très important mais où il y a beaucoup de choses en même temps. Et notre lieu, donc moi je suis à la bibliothèque universitaire du campus 2, on a parfois du mal à exister dans un programme très conséquent. Et donc on n'arrive pas toujours à faire ce qu'on a envie de faire avec les invités qu'on voudrait avoir. Et donc c'est comme ça que cet événement a été créé en mars, puisque c'est toujours à peu près les mêmes dates. C'est vraiment un pendant d'un temps un peu plus libre pour tout le monde. Et au fil de temps, il s'est un peu transformé. Au départ, c'était essentiellement des enseignants-chercheurs qui venaient expliquer leurs recherches dans des ateliers, des conférences. Mais on va dire depuis 5 ans à peu près, c'est approximatif, c'est vraiment les étudiants qui ont repris la main. C'est une volonté aussi de réorienter le festival. L'objectif étant que les étudiants valorisent ce qu'ils ont déjà appris dans leur domaine depuis leur arrivée dans le département ou l'UFR où ils sont, en essayant de montrer à leurs camarades qui n'ont pas du tout le même profil, pas du tout choisi les mêmes études, mais qui peuvent comprendre l'atelier qu'ils vont faire, apprendre quelque chose qu'ils n'ont pas suivi du tout dans leur cours.
Et donc justement, vous parlez des différents étudiants, des différents cursus. Est-ce que tous les UFR participent, tous les étudiants de différents UFR participent, ou est-ce qu'il y a des cursus particuliers ?
Alors il y a des cursus particuliers parce que c'est un travail très difficile d'arriver à contacter tous les UFR et puis je ne suis pas sûr qu'on ait la capacité d'ailleurs d'accueillir vraiment toutes les participations. Essentiellement depuis maintenant très longtemps, l'UFR Science évidemment est très impliqué, l'UFR STAPS aussi, l'école de l'ESIX et on a deux étudiants avec nous pour vous expliquer tout à l'heure. Il y a également l'IUT qui est présent. Par info et communication, mais également réseau et télécommunications. Il y a des laboratoires aussi, on verra tout à l'heure avec Florine, avec le LASLAR. Il y a également Vertex, qui est un laboratoire, mais à chaque fois, c'est, même si ce sont des labos de recherche, c'est soit, comme Florine, des doctorants, donc encore un petit peu étudiants quand même, et soit des étudiants accompagnent le projet du labo. Donc il y a quand même des étudiants impliqués, même si c'est un laboratoire de recherche. Donc toutes les écoles, tous les UFR ne sont pas représentés. Puis, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a aussi des associations étudiantes. La Corpo Sciences, par exemple, est active depuis la première édition. L'association Phoenix OCN, donc autour du e-sport également, est présente depuis sa création en tant qu'association. Voilà, donc il y a plusieurs associations aussi. Il y a l'association aussi du BDE au Campus 3, qui va participer, évidemment.
Et alors, c'est quoi l'intérêt de faire participer les étudiants à l'organisation de ce festival ?
Vraiment, ça se démarque des autres animations qu'on peut trouver dans l'année. Tout à l'heure, j'ai parlé de la fête de la science, c'est plutôt la recherche qu'on essaie de mettre en avant, la médiation des chercheurs de l'université. Le Turfu a un autre angle d'attaque aussi, donc en modifiant un petit peu le projet, on se démarque complètement de d'autres offres qui pourraient être vues comme concurrentes ou identiques, donc ça n'aurait pas beaucoup d'intérêt. Et là, l'idée, c'est vraiment de montrer, de valoriser ce que les étudiants sont déjà capables de faire. Et je vous avoue qu'à chaque édition, on est très surpris de leurs compétences et de la capacité vraiment à proposer des choses innovantes compréhensible de tous. On n'est pas obligé d'avoir fait les X mécatroniques ou agroalimentaires pour participer à leur atelier. Donc chaque année, vraiment, on est tous très très surpris et très agréablement surpris par ce qui est proposé.
Et justement, les ateliers qui sont proposés par les étudiants, comment ils sont sélectionnés? Est-ce que vous prenez tous les ateliers qui sont proposés ou est-ce qu'il y a une sélection précise dessus?
En fait, pour moi, le point de départ, c'est le lien à un enseignant-tuteur au sein de l'UFR ou de l'école. Je propose le cadre du festival. Si dans le cadre, il y a un cours qui peut tout à fait rentrer dans les maquettes, tout simplement, de la licence ou du master, ou dedans, il y a un titre comme gestion de projet, projet tutoré, il peut y avoir plusieurs titres différents. C'est plutôt comme ça. Et l'enseignant me dit, cette année, il y aura 3 projets. Et après, notamment c'est le cas avec les étudiants de l'ESIX, il y a un système de revue de projet où moi j'assiste, c'est en fait une sorte de mini-soutenance, où les étudiants montrent un peu l'avancée du projet qu'ils ont imaginé pour animer le festival. Et forcément, entre la première revue de projet et la dernière, il y a eu des ajustements par rapport à nos remarques, par rapport à eux-mêmes, leur réflexion tout au long des différents mois, puisque ça, c'est quand même plusieurs mois de travail quand même avant de proposer l'atelier. Voilà comment un petit peu le processus. Donc, il n'y a pas d'atelier rejeté. Ce qui pourrait être rejeté, c'est ce qui ne correspondrait pas à la philosophie du festival, c'est-à-dire dans cette semaine-là, il y a une conférence sur les sciences. On ne la prend pas forcément, puisqu'on va plutôt aussi sur un aspect qu'on n'a pas encore évoqué. Mais il y a 3 mots-clés dans le festival, c'est la science, la culture et les jeux, puisqu'il faut évidemment qu'il y ait un aspect ludique en plus aux ateliers. Donc, voilà. On y retrouve des murder parties, des escape games, des jeux de cartes, des quiz. Voilà aussi pour amener un peu de savoir de cette manière-là.
Justement, en parlant un petit peu de ces différentes animations, est-ce que vous pouvez nous donner un aperçu du programme de ces 2 semaines?
Oui, alors il y a 19 projets, donc je vais peut-être pas tous les énumérer. Et en plus, certains sont proposés plusieurs fois. On commence toujours, en tout cas, par une inauguration qui sera un goûter, évidemment adapté au rythme des étudiants et des rythmes des cours, donc qui sera le lundi 10 à 15h30 directement à la BU du campus 2, puisque c'est là où moi je suis et c'est le point de départ en tout cas du festival se fait ici. Donc on invite tous ceux qui ont envie de venir à ce goûter d'inauguration. C'est aussi le moment où on va pouvoir distribuer les programmes de tout le festival, discuter avec les différents étudiants qui vont peut-être pour le coup en tant que public découvrir que ça va avoir lieu, c'est souvent le cas. Donc voilà, ça c'est le top départ. Ensuite, il y a plusieurs projets, il y a des ateliers comme je pense à un escape game avec les étudiants de l'ESIX mécatronique, il y a une murder party donc avec Florine qui va en parler tout à l'heure. Les étudiants de l'ESIX Agro vont proposer deux ateliers autour de l'alimentation et du sport. Donc, à chaque fois, un parcours à réaliser, un parcours parfois sportif à réaliser. On va retrouver côté aussi un thème qui devient de plus en plus important dans le festival, c'est le low-tech, notamment par 2 projets. Un projet côté ESIX mécatronique, où j'imagine peut-être que nos auditeurs et nos auditrices connaissent, c'est le jeu Flappy Birds, qui est un jeu au départ sur téléphone, mais qui vont modéliser en 3D et vont donner un jeu par la mécanique, par l'électricité. Donc on va pouvoir avoir un vrai jeu physique et non pas un jeu vidéo. Donc on pourra venir tester ce jeu Flappy Birds. Voilà, il y a aussi en low-tech, il y a un autre projet, donc comme je parlais tout à l'heure du lien entre des laboratoires et des étudiants, le laboratoire Vertex, donc il y a un laboratoire rattaché en STAPS, a étudié, donc travaille depuis quelques années avec ce qu'on appelle le Low-Tech Lab. En fait, ce sont deux jeunes personnes qui vivent, qui essaient de montrer dans des milieux parfois extrêmes, parfois difficiles, hostiles, que les low-tech peuvent aider à vivre simplement, à bas coût, et on reste en très bonne santé malgré tout. Donc ça, il va y avoir des témoignages, des photographies, et les étudiants vont aussi gérer un petit questionnaire pour essayer de savoir ce qui pourrait intéresser les étudiants, ce qui serait applicable dans leur vie quotidienne par rapport au low-tech qu'on pourrait montrer. Voilà un petit peu. Il y a une soirée cinéma aussi que j'ai pas citée pour l'aspect aussi culture, donc qui sera le film Mars Express. Donc ça, ce sera à l'Amphidore le mardi 18 à 20h. C'est l'événement payant, mais c'est 2,50€ pour les étudiants, si je dis pas de bêtises, ou 2€. Donc voilà, c'est tout à fait accessible et il y aura un petit débat, animation autour de l'intelligence artificielle, puisque c'est le thème du film. Voilà un petit peu, il y a du e-sport aussi, donc je ne vais pas tout balayer, mais voilà, le e-sport étant aussi, via l'association notamment Phoenix, CN et la Fédération du sport universitaire, on a plusieurs événements. On a un événement de jeu d'échecs en ligne, donc ça c'est peut-être moins classique du e-sport, mais ça parle à plusieurs personnes. On a également la finale du tournoi régional de League of Legends qui clôturera le festival. Et puis un autre événement qui cette fois est porté par le BDE du Campus 3, c'est un tournoi Mario Kart le mercredi 12. Donc voilà, plusieurs types d'animations différentes y sont proposées.
Et donc c'est la 9e année cette année. Est-ce qu'il y a des nouveautés ? Comment vous arrivez à renouveler un peu à chaque fois ?
Alors déjà, chaque groupe d'étudiants sont forcément nouveaux puisque le groupe en lui-même est renouvelé, la classe est renouvelée. On discute parfois avec les enseignants, notamment quand j'interviens dans les revues de projet, sur des grands thèmes qu'on pourrait leur proposer. Voilà, y a des thèmes récurrents dans le festival, mécatronique ou magie par exemple, c'est un thème récurrent depuis quelques années, low-tech aussi, mais à l'intérieur, ce qui va s'y passer est complètement différent d'une année à l'autre. Ça, c'est vraiment intéressant, mais c'est simplement le fait des étudiants, c'est-à-dire qu'on leur donne vraiment une carte blanche sur ce qu'ils ont envie de faire. Ça me semble vraiment un point déterminant, c'est-à-dire il faut qu'ils se fassent plaisir aussi, même s'il y a parfois une contrainte de cours et parfois aussi d'évaluation. Il faut vraiment qu'ils fassent un truc qui leur fait envie. Et d'ailleurs, on le voit très bien chaque année, les groupes qui ont envie de montrer de ce qu'ils ont fait, c'est-à-dire bien choisi le sujet qu'ils avaient envie de défendre. Ils s'amusent beaucoup et ça se répercute évidemment sur la joie du public d'y participer.
La communication du festival, elle est elle aussi assurée par des étudiants. Pourquoi avoir fait ce choix ?
Là, c'était vraiment une belle opportunité. Donc, il y a à peu près 3 ans, l'IUT, le département info et communication, a participé au festival. Au départ, comme les autres étudiants, proposant plusieurs ateliers. Je me souviens d'un quiz autour du cinéma, notamment, ou des séries télévisées. Et donc, ils sont entrés dans le festival la première année de cette manière-là. Et puis, en discutant avec l'enseignant, donc Frédéric Gay, peut-être que ce serait plus approprié qu'ils utilisent aussi leurs compétences, à savoir la communication. Donc, on s'est dit que ce serait un peu la boucle est bouclée, puisque au-delà des ateliers du cœur du festival est animé par les étudiants. En plus, si la communication est gérée par les étudiants, c'est encore un beau challenge. Donc pour eux, c'est une sorte d'atelier dans l'atelier, c'est-à-dire qu'ils gèrent la communication, c'est un peu leur atelier à eux. En tout cas, ça, c'est la 2e année donc qu'ils sont en train de le faire. Ils sont chargés notamment de réaliser les affiches, les programmes papier, de gérer tout ce qui est sur les écrans dynamiques, par exemple dans les différents départements ou UFR. Ça va être aussi de faire tout ce qui est teasing pour YouTube, les réseaux sociaux. Alors tout ça se fait, je ne l'ai pas encore dit, mais en lien direct avec la direction de la communication de l'université. Puisque quand même, ils représentent l'institution universitaire, on ne peut pas faire exactement tout ce qu'on a envie de faire. Donc il y a un cadrage qui est fait entre l'enseignant et la direction de la communication pour que les étudiants fassent vraiment ce qu'ils doivent faire, mais en gardant bien sûr l'idée de la charte, par exemple graphique de l'université, il y a un certain nombre de contraintes.
Vous mentionniez tout à l'heure l'objectif du festival d'être un peu ludique, festif, notamment pour rendre des sujets scientifiques accessibles à un public qui n'est pas forcément initié dans ces domaines-là. Comment on fait pour trouver la balance entre le côté ludique et garder quand même une rigueur scientifique sur les sujets qu'on traite ?
C'est un peu la même réponse que tout à l'heure, c'est vraiment entre les mains des étudiants. C'est-à-dire que nous, on peut conseiller, chaque groupe a un enseignant référent qui peut les aider d'un point de vue technique ou les conseiller aussi sur une stratégie ou affiner certaines choses. Par exemple, des fois, il y a des groupes qui veulent voir beaucoup trop grand par rapport au temps qu'ils peuvent y consacrer, parce qu'ils travaillent beaucoup dessus, mais ils ont autre chose aussi à fournir à côté du festival. Donc, ils ont aussi beaucoup de cours et d'autres évaluations à réaliser. Donc, il ne faut pas qu'ils perdent non plus trop de temps sur cet élément-là. Donc, voilà, c'est un peu... On arrive avec l'enseignant-tuteur à essayer de leur glisser quelques conseils, mais globalement, on intervient assez peu sur cet aspect-là.
Et pourquoi c'est important de faire de la médiation scientifique comme ça ?
Le point vraiment important dans ça, c'est déjà qu'ils comprennent les uns les autres un peu ce que veut dire leurs études. En fait, tout simplement, on voit rien que sur le campus 2, mais depuis quelques années, en plus, on arrive à mélanger les groupes d'étudiants de différents campus. Ça, c'était un autre objectif aussi. c'est juste de faire découvrir dans un premier temps c'est quoi cette discipline-là, alors que peut-être on se dit bah, j'y comprends rien, c'est très loin de moi. Là, on voit qu'il y a des sciences humaines et sociales, il y a, on va retrouver des sciences de l'ingénieur, on va retrouver des STAPS, on va retrouver de l'ergonomie, pareil. L'ergonomie, c'est une matière qui est y a un diplôme qui est en STAPS, et y a beaucoup de gens qui ne savent pas trop exactement ce que ça signifie, pourquoi c'est en STAPS, etc. Donc, c'est déjà ça le point de départ. Ensuite, c'est essayer d'apprendre, en tout cas que les étudiants arrivent à transmettre quelques éléments sur un sujet. Ça me semble vraiment important. On le voit dans une époque un peu actuelle, un peu difficile sur la vérité et la science en général. Donc, ça me semble important, en plus, qu'il y ait cet aspect-là. Même si le point de départ, c'est plutôt une rencontre entre des étudiants qui se côtoient sur un campus sans exactement savoir ce que l'autre fait.
Vous écoutez C'est pas faux sur Radio Phoenix.
Nous sommes avec Julien Legal pour parler du festival Enquête de Sciences, mais également avec Loris, Florine, Fatoumata et Ocelin qui prennent part à l'organisation de plusieurs activités au cours de cet événement. Et on va commencer par toi, Florine Lemarchand. Tu es doctorante en lettres et membre du Gaming Lab au CEMU. Et vous organisez lundi prochain une murder party au Mère m'a tué. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi ça consiste exactement ?
Oui, alors une murder party, c'est un jeu d'enquête qui est aussi un jeu de rôle grandeur nature. Donc on va proposer à 12 participants d'incarner des personnages et de mener une enquête, donc de résoudre un crime en jouant ces personnages. Ils vont devoir improviser, ils vont devoir se questionner les uns les autres, avoir des indices aussi et analyser un petit peu ces indices pour découvrir ce qui s'est passé. Donc le scénario va les mettre dans la peau de participants d'un colloque universitaire. Sans en dire trop, le titre l'indique un petit peu. L'histoire, c'est qu'ils sont invités à un colloque où un grand chercheur veut faire une révélation sur Homère, donc l'auteur de l'Iliade et de l'Odyssée. Et puis évidemment, le colloque ne va pas très bien se passer. Donc ils auront 2 heures pour découvrir qui est coupable et pourquoi.
Et alors, pourquoi vous avez choisi de faire une murder party ?
Alors, plusieurs raisons. Alors, c'est une petite passion qui nous réunit avec donc Arthur Gatté et Lucie Tamboise, qui sont mes camarades qui créent avec moi ce projet. Et puis, parce que c'est un format qui est encore peu connu. Les jeux d'enquête se développent vraiment, sont très à la mode, notamment en France, mais on connaît énormément les escape games et pas trop les murders qui sont vraiment plus un côté jeu de rôle. Donc, à la différence de l'escape game, nous, il n'y aura pas d'énigme logique, par exemple. Ça se passe vraiment par la narration, par le fait de raconter une histoire tous ensemble et d'aimer jouer un personnage, même si on peut venir si on n'est pas très à l'aise avec le théâtre, par exemple. Nous, on est maître du jeu, on sera très gentils par rapport à ça, on accompagnera vraiment les joueurs aussi. Donc voilà, la murder, ça permet aussi d'aborder différemment des sujets. L'escape game va être aussi souvent privilégié pour des sujets de sciences techniques, sciences un peu plus expérimentales. Et nous, comme on est étudiants en sciences humaines et sociales, c'est aussi un moyen d'aborder des questions de littérature, des questions de recherche universitaire, voilà, d'une façon un peu différente, un peu plus appropriée.
Et vous l'avez dit, vous allez être maître du jeu. En quoi ça consiste exactement être maître du jeu dans une murder party ?
Alors, on accueille les joueurs, bien sûr, on leur explique quel personnage ils vont incarner, comment ça va se passer. Et on est là tout au long de la partie, déjà pour vérifier que tout se passe bien, que tout le monde est à l'aise, pour donner les indices aussi. Il y a un système de vente d'informations, donc ils auront tous un certain nombre de points à action, ils vont pouvoir les utiliser comme bon leur semble. Et puis, on est là à la fin aussi pour un petit peu organiser le dénouement. Donc, c'est un dénouement à la Hercule Poirot où tout le monde se réunit et donne sa théorie sur le crime. Et puis ensuite, on révèle qui est vraiment coupable.
Et donc, peut-être quelques infos pratiques. On a dit que c'était lundi prochain. Est-ce que vous pouvez nous dire où, comment on s'y rend, tout ça ?
Oui, c'est lundi 17 mars, donc de 18h à 21h à la BU Pierre Sineux sur le campus 1. Ça sera dans les fonds normands, mais en tout cas, les joueurs auront rendez-vous à l'accueil de la bibliothèque, donc on sera là pour les retrouver. On est très heureux de pouvoir cette année faire au campus 1, on avait fait au campus de l'an dernier, c'était très sympathique aussi. Et puis donc, ce sera sur inscription, donc nous on contactera aussi les joueurs en avance par mail pour leur donner aussi un peu plus d'informations.
Merci beaucoup Florine.
Merci.
Pour passer à Loris. Loris, tu es étudiant en troisième année de BUT Réseau et Télécommunications à IF. Avec ta promo, vous organisez sur le campus 3 un défi cybersécurité. En quoi ça consiste ?
Donc c'est bien ça, on est en troisième année. Et donc, en fait, déjà, vu que nous, c'est la première année qu'on participe au festival Enquête de Sciences, c'est un peu notre baptême du feu. Mais avec donc, mes camarades de promo qui participent au projet, on s'est dit qu'il fallait donc, un peu présenter au grand public notre filière, donc réseau télécommunication et que parcours cybersécurité. Donc ce qu'on s'est dit, c'est qu'on allait faire un mini CTF, donc Capture the Flag. C'est, de base, c'est une compétition de cybersécurité où il y a présent plusieurs challenges. Et donc, on a voulu adapter ça par rapport à notre filière. Donc c'est sur un site internet, on a créé plusieurs challenges. Donc, des challenges plus normaux, plus classiques, on va dire, liés directement à la cybersécurité. Et on a aussi créé d'autres challenges donc, par rapport au réseau et à la télécommunication. On a essayé de faire ça de manière assez ludique pour que ça soit accessible donc, aux lycéens, aux jeunes étudiants ou même d'autres personnes, donc plus jeunes, un peu tout le monde, pour un peu présenter la formation ou même divertir tout simplement pour aussi attirer dans la formation qui ne parle pas forcément à tout le monde encore aujourd'hui.
Et tu l'as dit, la cybersécurité, ça parle pas forcément à tout le monde. C'est un sujet qui peut paraître un peu obscur quand on n'est pas initié. Comment vous essayez de rendre ça accessible dans votre activité?
Par exemple, si on peut citer un challenge de cybersécurité, donc souvent en fait on a tendance à se dire que les personnes un peu plus vieilles qui sont moins sur les réseaux sociaux, ils ont tendance à avoir des mots de passe plus simples. Du coup, à travers le réseau social d'une personne assez vieille, le challenge c'est de retrouver donc son mot de passe. Donc c'est un peu ce qu'on appelle de l'ingénierie sociale entre guillemets, et donc ce challenge il permet de faire un peu de sensibilisation un peu à la cybersécurité, des choses du style. C'est un exemple parmi d'autres.
Et tu l'as dit, c'est la première année que vous faites ça. Comment vous est venue l'idée de participer à Enquête de Science? Comment ça s'est passé avec notamment tes camarades? J'imagine que t'es pas tout seul sur l'organisation de cet atelier.
Tout d'abord, donc il y a eu un premier contact avec notre chef de département. Qui ensuite a profité pour proposer aux étudiants de troisième année qui ne sont pas en alternance, qui sont en initiaux. Donc, comme on a des périodes forcément un peu plus creuses quand les alternants sont en entreprise, donc le chef de département nous a proposé ce projet. On a un peu discuté entre nous, il a proposé des idées, on a un peu proposé des idées en tous les sens. Et on a trouvé cette idée qui nous plaisait un peu à tous, donc on s'est un peu lancé dedans, quoi.
Peut-être question pratique avant de passer aux prochains ateliers. Pareil comme pour Florine, où est-ce que ça se passe? Quand est-ce que ça se passe?
Ça se passe dans mes souvenirs, je crois que c'est 11 mars, c'est au campus 3, et le 13 mars au campus de Varde.
Fatoumata et Ocelin, vous êtes tous les deux de l'ESIX agroalimentaire et vous allez proposer des ateliers sur le sport et l'alimentation. Donc vous avez deux programmes, Harmonie Active et Complément de Sport. En quoi ils consistent ces deux programmes?
D'accord, donc moi je présente le projet Harmonie Active. Harmonie Active, c'est un projet qui explore le lien entre l'alimentation et le sport. Donc, nous avons pensé à un parcours de plusieurs activités qui vont permettre aux participants de déjà connaître leur profil sportif à travers un quiz interactif. Ensuite, ils vont apprendre via des posters. Donc, on a déjà préparé deux posters. Là, on va se concentrer sur l'importance de l'alimentation selon l'âge donc, et selon le sport qui est pratiqué. Et le second va être axé sur le e-sport. Donc, c'est une activité qui n'est pas très connue et on minimise très souvent l'impact de l'effort qu'on peut fournir en faisant de l'e-sport. Donc, nous avons jugé nécessaire de mettre en lumière cette activité-là. Et ensuite, ils vont expérimenter réellement le e-sport, donc nous avons préparé des casques de réalité virtuelle qu'ils vont pouvoir utiliser. Et donc à la fin de cette activité-là, ils comprendront que l'activité peut faire dépenser des calories, donc l'alimentation est très importante pour pouvoir aider à avoir une certaine capacité, etc., pour faire l'activité. Et à la fin, ils vont participer à un défi de vélo smoothie. Donc, ils vont se mettre sur des vélos à smoothie, ils vont pédaler pour pouvoir faire leur propre blender, avec le blender, faire leur propre smoothie. Donc on va mettre en rapport l'alimentation et le sport. Donc, au bout de l'activité et de l'effort physique, ils vont faire un smoothie qui va leur permettre de récupérer un peu des calories qu'ils ont perdues en faisant l'activité.
Ocelin, tu veux peut-être ajouter quelque chose sur le sujet?
Oui, alors, nous, notre projet est dénommé Complément pour le sport. Va mettre en évidence le lien essentiel entre l'alimentation ou la nutrition et la performance sportive. Et nous proposerons des ateliers, plusieurs ateliers interactifs, pour expliquer en quelque sorte comment l'alimentation influence l'énergie, la récupération musculaire, la performance physique. Un des ateliers dénommé « Créer sa boisson adaptée » sera présenté où nous démystifierons le rôle ou les compléments alimentaires, leur rôle, quels sont leurs rôles, quels sont, en quoi ils peuvent être utiles, quels sont les risques liés à la prise de compléments alimentaires et pourquoi peut-on les juger parfois inutiles. Et pour vous donner un ordre d'idée, déjà, nous avons deux ateliers. Un atelier sur les compléments, avec des compléments alimentaires, où nous allons avoir deux boissons à la spiruline, une boisson à la spiruline, adaptée généralement aux sportifs, et voilà, une boisson protéinée à la vanille. Et l'idée est d'avoir une boisson très répandue, bien connue, et une autre de moins bonne image. Et nous allons avoir également, toujours pour cet atelier, créer sa boisson adaptée, des menus sans compléments alimentaires, adaptés aux enfants et aux personnes qui ne préfèrent pas ou qui préfèrent éviter les boissons avec les compléments alimentaires. Après, nous proposons également des jeux de twisters revisités, dénommés Twist Food. Là, l'objectif du jeu sera... En fait, nous remplacerons les pastilles par des aliments de type vitaminé, de l'eau. Et le jeu sera très simple. Un arbitre tourne la roulette et annonce le résultat. Le joueur doit se déplacer, ou déplacer sa main ou son pied sur la pastille annoncée. Et si le joueur touche le sol ou tombe avec une autre partie du corps, c'est perdu. Tout simplement, et le dernier joueur a gagné. Et ainsi de suite. Nous serons également les maîtres du jeu. Nous accueillerons les participants et nous leur dirons les directives à suivre, qu'est-ce qu'il faut faire. Là, nous les accompagnerons quand même durant tout.
Et alors, ça sera quand ces ateliers ?
Il y a trois dates retenues. Je pense le 11 mars déjà, au Campus 3. Et après, il y a le 13 et le 20 mars au Campus 2. Là, ça sera au Campus 2.
Et pourquoi est-ce que vous avez choisi, pourquoi est-ce que ça vous a semblé important de parler de ces sujets-là pendant Enquête de Sciences, les sujets sur l'alimentation, etc.
Donc, nous sommes étudiants à l'école d'ingénieurs en agroalimentaire. Et l'alimentation, pour nous, c'est très essentiel pour pouvoir faire des performances physiques, mais pas que physiques, et mentales également. Et c'est très important. Et parfois, on oublie un peu cet aspect-là quand on parle du sport, etc. Donc, on pense très souvent, comme cela l'a dit, aux compléments alimentaires et à d'autres suppléments qu'on peut éviter si notre alimentation est saine et équilibrée. Donc, pour nous, ça nous a paru essentiel de mettre en rapport ce lien-là qui est évident pour nous, mais qui peut ne pas l'être pour d'autres. Donc, pour nous, c'est une façon ludique de sensibiliser à l'importance de l'alimentation pour les sportifs, mais pas que pour les sportifs, pour les non, pour les moins sportifs, un peu comme moi également. Donc, ça nous a paru une évidence. Et on a été accompagnés dans tout le long du processus à revisiter, à repenser les activités, comment les faciliter et les rendre plus accessibles aux participants.
Encore une chose, je ne sais pas si M. Le Gall vous l'a dit au début, la thématique choisie cette année, c'est sport et alimentation. Donc, nous avons essayé d'identifier ou de réfléchir à des thématiques ou à des sous-thématiques qui vont mettre en lien le sport et l'alimentation. Ajouté à ce que ma collègue Fatmata a dit. Et sans oublier aussi que je vais aussi ajouter que nous allons proposer également des ateliers libres en autonomie qui seront ludiques, éducatifs. Ce sont des ateliers dénommés « Jeux parfaits »,« Jeux des cartes », donc des compléments parfaits, où nous aurons plusieurs compléments alimentaires, des cartes de plusieurs compléments alimentaires parmi les plus répandus ou les plus consommés. Et nous allons avoir également des cartes bénéfices-risques qui iront ou pas avec ces compléments alimentaires-là. Et l'idée, c'est d'arriver à matcher, d'arriver à faire convenir les compléments alimentaires ou le complément alimentaire à sa carte bis et bénéfices et risques.
Et alors, une question pour un peu vous tous et toutes. Comment ça s'est passé au niveau de l'organisation du festival pour la collaboration entre les différents étudiants, les différents projets ?
Si on reprend dans l'ordre des participants, alors nous, c'est très bien passé. Il faut savoir que nous, avec Arthur et Lucie, qui sont donc les deux autres personnes qui créent la Murder Party, on fait partie du Gaming Lab de l'université, donc le Gaming Lab du CEMU, qui est le centre d'appui à la pédagogie de l'université. Et c'est dans ce cadre-là qu'on propose le projet Murder Party. Le Gaming Lab fait de la ludopédagogie, donc il accompagne les enseignants qui veulent travailler grâce au jeu, enseigner différemment grâce au jeu. Et donc c'était quand Julien nous a proposé d'intégrer Enquête de Sciences, parce que nous on a cette double casquette d'être à la fois au Gaming Lab et de faire partie d'un laboratoire de recherche en tant que doctorant. On a tout de suite saisi cette opportunité-là, et d'autant plus que la médiation scientifique nous intéresse énormément de par notre formation et par cette activité professionnelle. Et donc la création, la collaboration s'est très bien passée. On a pris 3 mois à écrire le scénario et puis à organiser ensuite l'animation en elle-même. Et c'est très confortable aussi de pouvoir s'appuyer sur la structure, sur le festival, sur les étudiants d'Infocom aussi. Donc ça se passe très bien pour nous.
Nous, de notre côté, on a eu un petit peu de mal au début dans notre organisation, parce que pour simplifier notre domaine, notre challenge, c'était pas toujours facile. Donc on a dû revisiter, revoir nos différents challenges plusieurs fois en compagnie du chef de département qui est dans le milieu. Une fois que ça c'était, qu'on avait enfin nos challenges prêts et assez ludiques, assez accessibles, il y avait un nouveau problème, c'était de pouvoir les faire tester. Donc on ne savait pas trop à qui faire tester, donc on a profité du salon d'étudiants à Caen au mois de novembre pour présenter un premier prototype de nos projets. On a essayé de faire tester ça aux étudiants qui étaient les plus motivés. Sinon, on a fait tester à différents professeurs. Et ça, c'était le premier prototype. Et là, du coup, on cherche à faire tester, à faire un peu final, que ce soit au secrétariat ou même différents professeurs, pas forcément du milieu, donc justement, qui s'y connaissent pas forcément très bien dans la cyber ou dans les réseaux ou dans la télécommunication. Nos différents challenges, tout simplement.
Est-ce que vous vouliez rajouter quelque chose ?
Donc, comme l'a dit tout à l'heure M. Legal, cette activité-là, c'est une partie intégrante de notre semestre. Donc, on a été accompagnés depuis le début par nos enseignants référentes, donc, qui ont été là, ainsi que l'équipe de M. Legal. Donc, à chaque fois, on faisait des revues. Donc, c'était un bon travail d'équipe. Et on y a passé beaucoup de temps à réfléchir et à travailler dessus. Et on a été accompagné par l'UT Communication également, donc sur ce côté-là, on est très bien.
Et j'avais une petite question pour finir sur l'après-festival. Vous avez tous préparé des activités, des jeux. Est-ce que c'est des activités qui vont perdurer, qui vont être utiles après pour d'autres événements, ou qu'est-ce que vous allez en faire en fait après ?
Alors de notre côté, pour la Murder Party, c'est tout à fait envisageable qu'elle puisse être rejouée. Alors pas par contre par des personnes qui l'ont déjà testée, mais par d'autres. On aimerait bien aussi la valoriser en la publiant en ligne librement sur le site murderparty.org. Donc on est en train de préparer tout ça. Et du coup, tous les passionnés pourront s'en emparer, la jouer chez eux dans leur salon.
Nous, de notre côté, le site, c'est un site qui va continuer d'exister, puis qui va continuer de perdurer après. Là, comme c'est la première année qu'on participe au festival, il n'est pas forcément perfectionné. Je pense qu'on pourrait sûrement faire mieux. Donc, c'est un site qui va sûrement être réutilisé par les troisième année de l'année prochaine pour le festival Enquête de Sciences de l'année prochaine, où ils pourront certainement évoluer un peu tout ça.
Donc, nous, pour le projet Harmonie Active, on a beaucoup misé sur la sensibilisation. Donc, on va, au cours de l'activité, distribuer beaucoup de flyers qui vont permettre aux gens de pouvoir faire leur propre smoothie fait maison avec des produits sains et frais. Et donc, ce sera des choses qu'on essaiera, en fait, qu'ils rentrent chez eux avec des connaissances qui leur seront utiles. En tout cas, et donc c'est pour la raison pour laquelle on a beaucoup misé sur les posters, les flyers à distribuer, etc.
Merci beaucoup, Loris, Fatoumata, Florine et Ocelyn d'être venus à notre micro. Merci également à Julien Legal. On le rappelle, vous êtes responsable du festival Enquête de Sciences. Bonne journée à vous.
Merci, bonne journée.
Vous écoutez C'est pas faux sur Radio Phoenix.
C'est pas faux, c'est bientôt terminé. Mais avant de se quitter, voici l'agenda de la semaine. Ce soir à 18h45, rendez-vous à la bibliothèque Rosaline Franklin sur le campus 2 pour observer le ciel. Venez explorer les astres grâce à l'expertise des membres d'Asnora, l'association normande d'astronomie. La soirée est en accès libre et gratuite pour les étudiants. À noter en cas de conditions météo défavorables, la séance pourrait être reportée demain ou après-demain. Reportez-vous sur le site de l'université pour plus d'infos. Ce vendredi 7 à 18h, les archives du Calvados vous invitent pour une conférence gesticulée, l'IVG en question. Où en est-on 50 ans après la loi ? Celle-ci vous sera présentée par Isabelle Asselin, gynécologue et présidente de l'association AssuRapes, l'association universitaire de recherche, d'enseignement et d'information pour la promotion de la santé sexuelle. L'entrée est libre dès 15 ans et gratuite dans la limite des places disponibles. Rendez-vous à l'auditorium des archives du Calvados. Enfin, ce samedi 8, la bibliothèque Alexis de Tocqueville organise une journée à la loupe mathématique. Au programme à 14h, la mathématicienne Sylvie Benzoni-Gavage vous présentera un atelier sur le rulpidon, un curieux objet géométrique et artistique. Puis à 15h, vous prendrez part à la conférence débat mathématiques où sont les femmes, où vous interrogerez sur les inégalités de représentation des genres dans les filières mathématiques. Et enfin à 17h, vous assisterez à la projection du film Le théorème de Marguerite, qui compte l'histoire d'une brillante élève en mathématiques qui voit sa vie basculer le jour de sa thèse. Tous ces ateliers sont gratuits et en entrée libre, c'est samedi. C'est pas faux, c'est terminé pour aujourd'hui. Vous pourrez réécouter cette émission et les précédentes en podcast sur phoenix.fm. Merci à Émile à la technique. De notre côté, on se retrouve la semaine prochaine. Dans quelques instants, rendez-vous avec Bastien pour la Méridienne. Passez une bonne journée sur Radio Phoenix.